Avant toute chose, nous nous rappelons l'Évangile. La grâce de Dieu, sa tendresse et sa paix vous sont données en Jésus-Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, quelle que soit votre foi, votre absence de foi, vos convictions, vos doutes, vos recherches, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Alors, grand merci à l'ensemble Pierre de Lune de nous avoir accueillis avec cette magnifique musique. C'est vraiment un accueil formidable, fait aussi au nom donc de l'Évangile. Merci à Diego Innocenzi d'avoir organisé ça et accompagné l'ensemble Pierre de Lune. Et merci à vous d'être ici, c'est un cadeau de pouvoir faire corps ensemble pour célébrer notre Dieu et nous ouvrir à cette force qu'il nous donne. Pour nous ouvrir donc à cette puissance de Dieu, je vous propose de prendre le psaume 42, page 62 de notre psautier, comme un cerf altéré brame pourchassant le frais des eaux. Les strophes 1, 3 et 4. Est amour. Tel est le résumé de tout l'Évangile que nous donne l'apôtre Jean dans sa première lettre. Et cela nous permet de nous tourner vers Dieu en toutes circonstances, sans aucune crainte. C'est ainsi que nous pouvons lui demander son pardon et son aide pour avancer. Alors c'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de saint Augustin. Ô Dieu notre Père, tu nous accordes la grâce de pouvoir te prier quand nous te le demandons, puisque dès que nous t'invoquons, nous vivons mieux et nous devenons meilleurs. Alors exauce-moi. Quand je peine à respirer dans ces ténèbres où je suis, tends-moi ta main secourable. Montre-moi ta lumière. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, et que j'aie en perfection l'amour et de toi, mon Dieu, et de tes enfants que tu me demandes d'aimer. que chacun reçoive vraiment, au plus profond de lui-même, une absolue confiance dans l'amour de Dieu, dans la bienveillance de Dieu à son égard, encore et encore. En effet, en Christ, Dieu se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, lève-toi et va. Tes péchés ont déjà été pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Tu peux avancer maintenant dans la paix. »
Thank you.
Un grand merci donc à vous tous pour ces pièces de Joseph Haydn. C'est vraiment une merveille. Et c'est la musique, effectivement, complexe, raffinée, profonde. Merci beaucoup. En ces temps, il semble important de pouvoir arriver à ouvrir les yeux et à avoir notre propre vision, à essayer de voir plus clair dans les informations, dans la situation du monde. Alors je vous propose d'entendre un récit où Jésus apporte à un homme en particulier l'évangile, bien sûr, mais aussi des soins. Car l'évangile, l'action de Jésus-Christ, c'est l'un et l'autre. C'est dans l'évangile selon Marc au chapitre 8. Jésus et ses disciples se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, il lui imposa les mains. Puis il lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant levé les yeux, l'homme dit, « Je regarde les hommes et je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et il vit clairement. Il fut rétabli. Il voyait tout distinctement. Alors Jésus l'envoya vers sa maison en disant, « N'entre pas dans le village. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune, chacun en particulier, à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour commencer à nous ouvrir à cette puissance de création qu'est Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos vies, je vous propose de prendre le cantique 35-01, c'est page 474 de notre psautier. Viens Saint-Esprit, Dieu créateur, donc c'est le Veni Creator de Martin Luther. 35-01.
Thank you.
J'aime bien ces récits de miracles de l'Évangile, car ils viennent nous parler de ces quelque chose de spécial qui vient en nous et qui vient de plus grand que nous, de plus grand que notre être, et qui nous apporte un bénéfice dans nos vies qui dépasse simplement notre propre philosophie, notre propre réflexion, notre propre effort pour avancer. Mais qu'attendre donc de cet Esprit-Saint ? La superstition permet des avantages dans le domaine de l'avoir, permet supposément avoir bonne santé, avoir fortune, avoir les amours, grâce à des forces surnaturelles. La foi, et particulièrement la foi en Christ, ouvre sur des bénéfices qui sont du domaine de l'être. Et ce n'est qu'ensuite que nous pourrons porter des bons fruits en ce monde. Cette distinction entre superstition et foi apparaît clairement à propos de ce court récit de la guérison d'un aveugle par Jésus dans l'Évangile selon Marc. En effet, dans le passage qui précède tout juste ce récit de Jésus avec cet homme, les disciples de Jésus disciples sur un fait hautement tragique, ils ont oublié d'acheter du pain. Alors ils sont dans le domaine de l'avoir. C'est normal de penser à avoir du pain. Jésus lui-même mangeait et l'Évangile nous dit même qu'il aimait bien ça. Cela fait partie de notre bonne nature. Mais à cette occasion, Jésus les ouvre à une autre recherche de ce qui nourrit notre être et aussi qui nous permet de nous garder de tout ce qui pourrait nous aliéner, tant dans le domaine religieux que dans le domaine politique. Alors je vais vous lire le récit qui suit juste avant, donc ce récit de guérison. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et ils n'en avaient qu'un seul dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation : ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples continuèrent à discuter entre eux du fait qu'ils n'avaient pas assez de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit : mais pourquoi raisonnez-vous en vous disant que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne saisissez pas ? Seriez-vous débile ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Et donc la guérison de l'aveugle vient juste après ce récit, où Jésus détourne la question des disciples sur leur avoir, pour les avoir du pain, avoir des yeux, vers la question de l'être, ouvrir les yeux, voir, entendre, comprendre, discerner. Alors c'est effectivement génial d'avoir une bonne vue. Mais bien des personnes qui ont de mauvais yeux sont plus clairvoyants que d'autres personnes qui ont 10 sur 10 aux deux yeux. Et puis Jésus n'est pas ophtalmologue. Il vient ouvrir les yeux de notre intelligence, de notre foi, les yeux de notre bonté, les yeux de notre capacité à nous émerveiller, les yeux de notre joie, de notre espérance qui peut devenir enthousiaste. Jésus, après ce récit de la guérison de l'aveugle, va exercer la vue des disciples en leur demandant, juste dans les versets qui suivent, « Qui dites-vous que je suis ?» Qui dites-vous, pas simplement les gens, mais vous-même ? Alors, Pierre, il voit que Jésus est le Christ, et il va le dire. Alors c'est formidable. Mais il ne voit pas clairement encore quel type de salut apporte Jésus-Christ. Il ne voit donc que confusément, comme l'aveugle qui est à moitié guéri par Jésus et qui donc a encore besoin de ses soins pour arriver à voir clairement. Alors regardons donc comment le Christ nous donne de voir un petit peu plus clairement dans notre vie et dans les étapes et les étapes qui sont dans ce très court récit. En effet, la vocation de Christ consiste à faire de nous un voyant. C'est la définition même d'être prophète ou prophétesse que nous sommes appelés à être dans la nouvelle alliance. C'est ce qu'annonçaient les prophètes des temps anciens et c'est ce qui est réalisé en Jésus-Christ. Toute personne reçoit l'Esprit-Saint et donc devient un voyant ou une voyante. Jésus apporte à l'homme une aide en plusieurs gestes. Le premier geste, il le prend par la main et le fait sortir du village. Jésus guide l'homme dans cette première étape qui consiste à sortir du village. Pour voir clair, pour espérer voir clair un jour, la première des choses est d'être libéré du poids de la foule, libéré du levain des pharisiens et du levain d'Hérode, comme le dit Jésus donc dans ce qui suit, qui précède juste le récit de miracles. Alors les pharisiens étaient souvent des personnes extraordinaires, d'ailleurs Paul, on le sait, et Jésus probablement, ont été formés dans ce courant spirituel. Mais les pharisiens ici représentent la prétention de détenir la vérité divine et de l'imposer aux autres. Alors il y a bien des pharisaïsmes de toutes sortes dans notre monde présent, et c'est comme un levain qui se mêle à la pâte de notre propre pensée, de notre propre conscience, la transformant en profondeur, insidieusement. Alors Hérode, lui, donc le deuxième danger que soulève Jésus, ça représente le pouvoir tyrannique par la puissance et par la crainte. Alors il y a bien des despotismes hérodiens dans notre monde présent, dans les gouvernants de ce monde, mais aussi dans les idéologies diverses, dans les religions parfois, dans les écoles, sur Internet, dans les familles. Il est donc bon de nous libérer du levain de l'opinion et du levain de la crainte pour avoir une chance d'ouvrir un jour nos yeux et de voir clairement par nous-mêmes. Mais d'un autre côté, tout n'est pas négatif dans la foule, car la foule se préoccupe gentiment de cet homme en l'amenant à ce curieux guérisseur itinérant qu'est Jésus. Jésus ne nous appelle donc pas dans l'Évangile à nous couper du monde, mais à veiller afin de ne pas nous laisser prendre par le monde. Et pour cela, on le voit, le premier geste de Jésus pour aider l'homme à s'en sortir, c'est un geste où il prend l'homme par la main, comme une maman rassurant son enfant sur le chemin de l'école. La tendresse est ainsi première, essentielle pour nous libérer. Car, à l'inverse de la tendresse, la peur de l'opinion des autres ou la peur de leur violence est le principal moteur de manipulation et d'aliénation dans notre monde. La victime va alors chercher la sécurité en se mettant sous la coupe des autres, de la foule, de l'opinion. Alors un vrai geste d'affection, au contraire, libère la personne de ce réflexe malsain. Elle se sait alors aimée pour elle-même, elle n'a plus besoin d'aller faire le mouton, de fermer les yeux, de s'enfermer dans cette foule. Jésus nous montre la tendresse de Dieu pour nous et cela nous donne la force de nous en sortir. Deuxième geste de Jésus ensuite, il met de la salive sur ses yeux et pose ses mains sur sa tête. Alors ces contacts sont encore de la tendresse, comme un baiser, comme une main qui caresse la tête. mais il y a en plus la salive. Alors son sens est connu, il est assez évident. La salive est ce qui sort de la bouche de Jésus. C'est de la parole, c'est du sens, c'est de l'évangile, mais en matériel, transformé en matériel. C'est de la parole vécue, incarnée dans une véritable rencontre. Et donc c'est le premier geste ici que donne Jésus. Et le second, c'est de poser ses mains sur la tête de l'homme dans ce geste millénaire d'imposition des mains, qui signifie une bénédiction, et même plus qu'une bénédiction. Les mains signifient un supplément de création. Pour former une personne à la capacité de voir par elle-même, cela demande donc en même temps de recevoir un message évoqué par la salive, un message vrai, vécu, et puis ça demande aussi un travail pour faire grandir la personne, ce qui est évoqué par les mains. Les deux à la fois, l'évangile et la formation. Jésus travaille sans cesse sur ces deux plans. Et c'est pourquoi ses paroles et ses actes sont si complexes et perturbants. Ils portent un message sur la grâce de Dieu sans cesse, mais ils amènent aussi à réfléchir, à changer notre logique. Ils font un appel à notre être, à aller creuser plus profond. Troisième geste ensuite, Jésus demande à l'homme « Vois-tu quelque chose ?» Une part essentielle de la pédagogie de Jésus est d'amener son interlocuteur à se poser des questions. Comme Socrate avant lui d'ailleurs, il cherche à faire accoucher son disciple d'un meilleur lui-même. C'est là aussi un travail sur l'être et pas seulement sur le contenu d'un message. Quand Jésus dit à l'homme « Vois-tu quelque chose ?» c'est un encouragement à ouvrir lui-même les yeux. Et en effet, bien des personnes ne se sont même pas demandé si elles avaient une opinion personnelle sur les grandes questions essentielles afin de vivre leur propre vie. Bien des personnes ne se sont pas senties ni dignes, ni autorisées, ni capables d'avoir une opinion philosophique, d'avoir une opinion théologique ou éthique. Elles ne s'en sont pas donné les moyens. Elles n'ont même pas commencé à ouvrir leurs yeux, ceux de leur propre intelligence, ceux de leur propre cœur, ceux de leur esprit, de leur personnalité. Mais Jésus lui dit, « Vois-tu quelque chose ?» L'homme lève alors les yeux et c'est déjà une victoire. Il regarde enfin et ce qu'il voit est intéressant, mais un peu curieux. Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Alors effectivement, dans l'interprétation biblique, quand on tombe sur un élément curieux, le premier réflexe, c'est d'aller chercher si ces curieuses paroles convoquent un autre passage essentiel de la Bible, puis qui fasse sens dans le moment du récit. Alors ici, c'est assez facile. Il faut aller jusqu'à la page 2 de cette bibliothèque qu'est notre Bible, et on y voit que l'humain à peine créé, ouvrant les yeux, se retrouve au milieu d'un jardin planté d'arbres fruitiers. C'est le jardin d'Éden. Et donc l'homme touché par Jésus se découvre être lui-même dans un début de création, mais encore en pleine création, dans une humanité elle-même encore en pleine création, en mouvement. Alors c'est prometteur pour sa capacité d'évoluer à voir la réalité ainsi. Le geste d'imposition des mains a donc été bien reçu, et il est en train de porter des fruits, il se voit en Genèse. Et puis le côté paisible le côté jardin d'Éden de cette vision montre qu'il n'est plus angoissé. Les gestes de tendresse de Jésus, les gestes répétés de tendresse de Jésus, ont porté son message, lui faisant sentir la tendresse de Dieu. Mais quand même, la vision de cet homme est passablement fantasmagorique. L'homme commence à voir effectivement par ses propres yeux, mais encore confusément. C'est pourquoi Jésus poursuit ses soins. Jésus lui met de nouveau les mains sur les yeux. Mais cette fois-ci, il n'y a plus la salive. C'est juste le geste de création continué. Une fois l'enseignement de base assuré, évoqué par la salive, Jésus choisit de se concentrer sur la formation de la personne, l'amenant à muscler ses propres capacités, à grandir encore dans son être. L'enseignement d'un contenu est formateur dans une première étape. Il est bon d'aider la personne en la tenant par la main quand elle fait ses premiers pas. Mais ensuite, il faut un sevrage. Sinon, la personne ne pourra jamais s'émanciper. Après cette première étape, vient le temps de lui permettre à cet homme de commencer à voir et à réfléchir par lui-même et de renforcer ses propres capacités à discerner du sens. Dans la découverte de la foi chrétienne ou de la philosophie, il en est de même. Il est bon d'acquérir les éléments de base, d'acquérir une pratique de l'étude, du questionnement, de la prière et de certains exercices spirituels possibles, comme vous l'avez fait ce matin en venant au culte. Mais rapidement, il est bon de ne pas en rester là, de ne pas être enfermé là-dedans, de prendre appui sur ces éléments reçus pour qu'ensuite on puisse voler chacune, chacun, de nos propres ailes à nos propres façons. Alors, dans ce moment de sevrage, j'allais dire, la personne a parfois un moment de vertige, à ce moment d'émancipation, lâchant la rassurante certitude du dogme, la chaleur d'un club, la routine d'une pratique. Mais c'est comme ça qu'on commence à savoir suffisamment nager pour lâcher les flotteurs pour la première fois. Pour moi, c'est une expérience quasi traumatisante. Je me souviens bien quand j'ai commencé à nager et que j'ai passé le diplôme dont je suis peut-être le plus fier, le diplôme de nage de 25 mètres. J'ai encore ce diplôme et j'en suis une grande fierté parce que je me souviens de ce moment où il faut lâcher les flotteurs. Et donc, quand on lâche les flotteurs, quand on lâche son dogme finalement, eh bien, il faut prendre confiance dans ce mouvement qui nous porte et prendre confiance dans ce Dieu qui nous garde. Alors l'homme voit maintenant clairement, c'est le but du Christ pour chacune et chacun. Alors nous sommes bien sûr à mi-chemin de cela, ayant toujours à recevoir un peu de salive de l'Évangile, tout en recevant encore de grandir grâce à l'aide et à la tendresse de Dieu. Pourtant déjà, nous pouvons commencer à recevoir le dernier geste de Jésus, le cinquième, comme sa main pleine qui nous crée et qui nous bénit. Le cinquième geste, Jésus l'envoya vers sa maison et lui dit « N'entre pas dans le village ». Dans la mesure où nous avons commencé à ouvrir les yeux, à observer par nous-mêmes, à réfléchir et à écouter Dieu directement dans notre prière, Jésus nous donne deux conseils pour la suite. Il nous envoie en mission. En effet, Jésus fait littéralement de l'homme et de nous-mêmes un apôtre, un envoyé et il l'envoie vers son propre lieu de vie. Dans la mesure où nous sommes déjà un peu prophètes ou prophétesses, et nous le sommes par l'Esprit Saint, nous sommes capables de voir ce que nous pourrons apporter là où nous vivons. Et puis Jésus met en garde l'homme de ne pas rentrer dans le village. Alors oui, notre liberté de voir par nos propres yeux est sans cesse à travailler, à entretenir, à muscler. Il y a toujours le risque de retomber dans la facilité de telle ou telle idéologie. Et il en est de même dans ce domaine, comme pour le ski nautique et le parapente. Pour voler et même pour s'élever encore, il est indispensable de continuer à avancer. Grâce à Dieu. Amen.
Prions. Seigneur, tu nous combles de paix et de joie. Fais-nous vivre de ta vie. Fais-nous marcher comme des enfants de lumière. Ouvre-nous les yeux. Que ton Église te rende fidèlement témoignage. Dans ce monde où beaucoup de personnes sont fragilisées par de nombreuses incertitudes concernant l'avenir, qu'elles communiquent l'espérance et la vie. Veille sur tous les peuples et donne la sagesse à ceux qui les dirigent. Fais cesser les guerres et les violences en tout genre, nous t'en supplions, et donne aux nations en conflit la volonté de trouver une paix équitable. Nous te prions pour notre pays. Accorde à nos autorités, comme à nous-mêmes, de rechercher en toutes choses ce qui unit dans la justice et dans la paix. Nous te prions pour toutes les personnes de notre paroisse qui traversent des moments difficiles. Apporte-leur le réconfort et l'espérance de temps meilleur. Enfin, notre Père, nous te prions pour nous tous ici présents, que ton Esprit Saint puisse opérer continuellement en nous, afin que nous soyons des témoins de ta miséricorde et de ton amour. Amen. Levons-nous maintenant pour adresser à notre Père la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Un grand merci à l'ensemble Pierre de Lune, vraiment, pour ce magnifique accompagnement. Merci à Olivier pour sa prière. Merci à Karine pour l'accueil. Merci à Diego, bien entendu, notre formidable organiste. Merci à vous pour votre participation à ce culte. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Et pendant l'offrande, eh bien, nous pourrons chanter le cantique 33-12. Page 410, entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique. Les trois strophes, 33-12.
Thank you.
avant d'avoir le droit de prendre la verrée conviviale à la sortie qui permet effectivement d'échanger entre nous, nous recevons la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu selon les paroles de Moïse dans le livre des Nombres. Bénédiction qui est aussi un envoi en mission, donc dans le monde, pour porter la bénédiction de Dieu. L'Éternel te bénit et te garde, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors gloire à toi, ô notre Dieu, source de miséricorde et de paix, de consolation et de sereine confiance dans la vie. Amen.